bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend berichten wir über die aktuelle Politik in Mali, auch in Togo. Ich bin Sylvain Amos, am Mikrofon, viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Bonsoir Mali, bonsoir Togo, Guinée, Conakry, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, amis du continent noir, ravi de vous retrouver ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K en Suisse alémanique. Le MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, a été chassé de la ville de Gao mercredi dernier par les djihadistes du Moudjahou lors d'un combat à Gao. Et bien, malgré la libération de la ville de Gao et de Tombouctou par les djihadistes du Moudjahou lors d'un affrontement avec le mouvement de la libération de l'Azawad, une confusion totale se crée dans la population malienne au nord du Mali qui craint toujours pour leur sécurité. Alors, pour commenter et analyser la situation très critique du Mali, l'écrivain Mouhamadou Youssouba sera un des invités de Fenêtre sur l'Afrique. Au Togo, le collectif Sauvons le Togo, est toujours dans sa logique de mobilisation et maintient toujours son grand meeting demain dimanche à Lomé. Alors, pour le CST, la libération des manifestants est un préalable à tout dialogue. Notre correspondant Augustin Améga et notre invité, Maître Raphaël Pandiadjaré, membre de ce collectif, nous ferons le point sur la situation politique du Togo et après les manifestations du 12-13 et 14 derniers, violemment réprimés par la police. Ils seront au téléphone en direct depuis Lomé. Et sous l'œil vigilant de Gisela Rossato, Michel Poilou également, Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Romain Koudjodi nous assiste toujours avec l'aide de nos deux correspondants au Togo, Fabi Kouassi et Augustin Améga. Encore une fois, merci de votre fidélité. Nous accueillons tout de suite Romain Koudjodi qui est également en ligne, en direct depuis Bono. Romain, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain Amos, camarade, fidèle ami auditeur de Canal K. Bonsoir.
Romain Koudjodi, merci d'être toujours avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Reste toujours bien évidemment en ligne pour ton éditorial, mais bien avant cela, et toute la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique se jette à moi et rend un grand hommage, j'allais dire, à notre doyen journaliste présentateur à la télévision nationale togolaise, Roger Yao Dogan, nous a quitté le 27 juin dernier. Alors, pour nous qui l'avons connu, Yao Dogan a marqué son temps et par son sens assidu dans le professionnalisme du métier de journaliste. Roger Yao Dogan, que la terre te soit légère et repose en paix. Après ce grand hommage rendu au doyen Roger Yao Dogan qui nous a quittés, nous retrouvons tout de suite Romain Koudjodi pour son éditorial.
Le MNLA chassé à main nue à Gao. Aucune force, aucune armée ne peut venir à bout d'un peuple déterminé et soulevé. La souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple seul qui l'exerce en cas de force majeure. Mao Tse-tung. La ville de Gao au nord Mali est sous le choc. Le mardi de la semaine passée, après les manifestations anti-rebelles qui ont été réprimées dans le sang, 4 morts et 12 blessés, nous dit-on, dont 2 graves. La révolte de la population de Gao contre les occupants est partie de l'assassinat par des hommes armés dans la nuit du lundi 26 juin d'un élu local. Idrissa Oumarou, enseignant et directeur d'école à Gao, appelé au téléphone, il sort à moto pour se rendre à ce rendez-vous et a été froidement abattu. Le soulèvement allait commencer par là. Les obsèques ont cédé la place à des expressions de ras-le-bol des populations qui se sont mises à brûler des pneus et à ériger des barricades dans les artères de la ville. La masse populaire, poussée et excédée, à main nue, a tenu avec force, détermination et stoïcisme à la force des baïonnettes avec pour aboutissement la mise en déroute et la destruction totale du MNLA. Amis auditeurs et fenêtres sur l'Afrique, nous nous inclinons très respectueusement devant la dépouille de ceux qui sont tombés sous les balles du MNLA. Ceux-là qui ont préféré la mort dans la dignité et ont inscrit le prix de la liberté en sang dans ce pays. Le Mali, dont ni les Occidentaux confondus au panier à crabes, véritable marionnette de l'Afrique, j'ai nommé la CEDEAO, l'UA et l'ONU, qui ne sont capables d'envoyer des contingents pour mater cette rébellion qui fout le bordel dans le nord du Mali. Mais n'empêche, Gao vient de donner une grande leçon de stoïcisme à toute l'Afrique et aux dirigeants impétueux et impotents qui ne veulent pas vider le pavé. Que ceux-là comprennent qu'un peuple déterminé qui a soif de liberté est une bombe à retardement et très puissante que rien ne peut ébranler dans la soif de liberté et de dignité humaine.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Pendant que le Mali attend toujours l'appui militaire de l'ONU pour la libération du nord du Mali, les rebelles Touareg du Mouvement National de la Libération de l'Azawad, MNLA, ont été chassés par les djihadistes du Mudjao au lendemain des violents combats de Gao. Pour le moment, les djihadistes ont pris le contrôle total de la ville de Gao et de Tombouctou. Même après cette libération de la ville de Gao, une confusion totale persiste toujours au sein de la population qui est la première victime de ces affrontements. Les dirigeants ouest-africains, en sommet hier vendredi en Côte d'Ivoire, ont décidé de l'envoi immédiat d'une mission technique d'évaluation au Mali, une mission chargée de préparer le déploiement des militaires ouest-africains. Mais les États-Unis, l'un des principaux partenaires sur lesquels compte la CEDEAO pour une aide logistique, ont conseillé la CEDEAO de ne pas intervenir militairement pour l'instant dans le nord du Mali. Les dirigeants ouest-africains ont confirmé encore et une fois qu'ils ne reconnaissent pas le CNRDRE et le statut d'ancien chef d'État accordé au capitaine Amadou Sanogo, le chef de l'ex-junte. Alors, pour commenter et analyser la situation actuelle du Mali, nous prenons tout de suite en ligne, en direct depuis Bâle, ici même en Suisse, Mouhamadou Youssouba, écrivain, qui est déjà en ligne, en direct depuis Bâle. Bonsoir, monsieur Mouhamadou Youssouba.
Bonsoir, bonsoir, monsieur Amos.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes écrivain et enseignant et littérature de la diaspora africaine et linguistique appliquée. En 2003, vous avez publié un livre sur l'histoire du nord du Mali durant la sécheresse de 1973 et la montée de l'islam en même temps dans cette région. Alors, Mouhamadou, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation sociopolitique très critique au Mali?
Je vous remercie de m'avoir invité dans ce dans une discussion quand même extrêmement complexe. C'est la question que l'on me pose chaque fois. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Alors, il faut résumer les choses complexes de cette façon. La rébellion, ce qu'on appelle la rébellion Touareg, elle ne date pas de janvier 2012. En fait, elle date de très longtemps. Au moins durant depuis l'indépendance, depuis 1960.
Monsieur Mohamedou Issouba, je vous reçois très mal. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre combiné téléphonique. Hein?
Oui, je disais que la situation que vous décrivez est complexe. J'espère que vous entendez un peu mieux.
Oui, ça va un peu mieux, oui.
Seulement un peu mieux.
Oui, c'est bon, allez-y, oui.
Alors que la situation est complexe parce que la rébellion même, ce qu'on appelle la rébellion Touareg, date de longtemps. Donc il y a eu la rébellion des années 60, entre 62 et 64. Il y a eu la rébellion des années 90, donc de 90 même jusqu'à 96, on peut dire. Et puis, cette rébellion de 2012. Entre-temps, il y a eu aussi la rébellion de 2006. C'est une situation récurrente. C'est seulement la différence, c'est qu'en 2012, nous avons une situation dans laquelle, pour la première fois, la rébellion a eu le dessus sur l'armée, et que nous passons d'un conflit de moyenne à basse intensité, ou bien de basse à moyenne intensité, à un conflit de très haute intensité, et que depuis maintenant la fin de mars, début avril, depuis le 1er avril 2012, pratiquement les deux tiers du territoire malien, bien sûr ce ne sont pas les territoires les plus peuplés, mais ces deux tiers sont pratiquement hors du contrôle du gouvernement central, de l'État et de l'armée. Donc, c'est ça, la situation post-indépendance, mais la rébellion même a ses origines, en fait, très très loin, durant la période coloniale. Il y avait une grande résistance à la pénétration coloniale. En fait, les dernières révoltes contre l'administration française ont coïncidé avec la Première Guerre mondiale. Donc, cette région du Mali n'a été, ce qu'on disait, pacifiée, entre guillemets, que vers 1916-17. C'est ça. Une situation très, très ancienne,
justement,
très complexe. Mmh. Mais il y a une grande différence quand même, c'est que après les indépendances, en 1962-64, la première rébellion, on peut dire, a été réprimée dans le sang très brutalement, et que ce n'est pas la même situation dans les années 90. Peut-être au début, il y avait une riposte violente de l'armée, mais tout à coup, il y a tout un processus de négociation qui a commencé. C'est pour cela que je disais que il s'agissait plutôt d'un conflit de moyenne intensité à un moment, après de basse intensité. Et donc il va y avoir cette alternance entre les affrontements, le calme, les trêves. Ça va durer très très longtemps. Faire des victimes, mais pas faire énormément de victimes. Faire des dégâts matériels, mais quand même... rien de comparable, sans commune mesure, avec ce que nous avons en 2012.
Et Monsieur Mohamedou Issouba, je ne sais pas ce qui se passe avec la communication téléphonique ici même en Suisse, mais nous allons quand même continuer. Il y a quelques semaines, le président en exercice de l'Union africaine, le président béninois Yaya Boni, demandait le soutien de l'ONU pour appuyer les forces militaires maliennes et pour une intervention militaire pour la libération du nord du Mali. Alors pourquoi, selon vous, le mécanisme de la levée du droit de veto de l'ONU prend du temps, et puisque hier également, au sommet de la CEDEAO, la CEDEAO tergiverse toujours sur une intervention militaire de l'ONU, et les États-Unis ne partagent pas pour le moment cet avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamedou Issouba?
Alors, je crois qu'il faut préciser les choses un tout petit peu. Quand vous parlez du veto des États-Unis aux Nations Unies, je ne suis pas tellement sûr. Je crois qu'il faut prendre la demande de la CEDEAO dans son contexte, c'est que la CEDEAO s'est réunie, la CEDEAO a évalué ses propres moyens et puis ses besoins. La CEDEAO a consulté avec l'Union africaine, c'est-à-dire au niveau continental, et puis c'est entre ces deux organisations, la CEDEAO et l'Union africaine, qui allait il y a quelques semaines se réunir à Lomé puis à Abidjan successivement, qu'une demande va être adressée aux Nations Unies pour appuyer une intervention éventuelle des forces de la CEDEAO dans le nord du Mali. Donc, la réponse du groupe du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a étudié la demande de la CEDEAO a été que la demande porte sur des points qui ne sont pas très très clairs. Il n'y a pas un plan précis. Donc il faut préciser certaines choses, il faut raffiner et peaufiner, on peut dire, la demande. Donc la demande n'a pas été rejetée, il n'y a pas eu de veto à ma connaissance, parce que le veto, ça veut dire que un pays qui détient, l'un des cinq pays qui détient le droit de veto, par exemple les États-Unis ou la Chine ou la Russie ou la France ou la Grande-Bretagne, a opposé, a mis son veto. Ça, ce n'est pas le cas. Maintenant, la réponse individuelle, c'est-à-dire au niveau d'une nation, des États-Unis, elle est importante, elle est venue, elle a été publiée hier, et a été commentée massivement depuis hier soir. Les États-Unis ont découragé la CEDEAO d'intervenir militairement, parce que les États-Unis disent qu'ils ne croient pas que la CEDEAO a les moyens d'intervenir dans le nord du Mali. Donc, dans ce sens, ce n'est pas vraiment la CEDEAO qui tergiverse en premier lieu. Peut-être que la CEDEAO tergiverse, mais il y a beaucoup de niveaux où on tergiverse. On tergiverse au niveau du gouvernement malien. Le gouvernement malien n'a pas encore fait la demande explicite qu'elle a besoin de forces extérieures, que ce soit des forces de la CEDEAO ou bien des forces des Nations Unies. Donc il y a ce niveau-là. Et puis la CEDEAO a plusieurs fois menacé d'envoyer une force militaire, une force d'intervention, une force de libération du Nord, ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et puis maintenant, il y a les États-Unis qui ont leurs propres raisons, qui ont leurs propres calculs, qui disent que la situation est très grave, mais eux, ils voient, du point de vue des États-Unis, que si la CEDEAO intervient, la situation va bientôt se dégrader, se détériorer, au lieu de s'améliorer. Donc, les États-Unis, dans leur communication d'hier, ont suggéré que eux, ils aident, ou bien que tout ce qui aide la CEDEAO aide les pays frontaliers comme la Mauritanie, l'Algérie, le Burkina, le Niger, à étouffer les groupes armés qui sont dans le nord du Mali. Ils ont dit aussi que, de leur point de vue, ils considèrent ACMI, le Moujao, tous ces groupes-là en Sardine, comme des groupes assez petits qui peuvent être contrôlés à long terme. Alors, ça, c'est leur interprétation. La question qui se pose, qu'est-ce qui arrive aux populations, qu'est-ce qui arrive au patrimoine culturel universel qui existe, qui est en train d'être détruit à longueur de journée à Tombouctou et ailleurs. Donc, c'est ça la question. Donc, plusieurs niveaux où on tergiverse dans cette affaire.
Mohamedou Youssouba, on a trois forces en présence au nord du Mali. Il y a le MNLA qui vient d'être chassé par le Moudjao, mouvement considéré comme une dissidence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et le troisième, ce sont les islamistes Touareg en Sardine, et qui se disent défenseurs de l'islam. Alors, ce qui crée une confusion totale au sein de la population et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Mais il y a aussi des habitants maliens et qui ne cachent pas leur joie de voir, bien sûr, le MNLA chassé hors du Gao, finalement, qui, selon vous, peut libérer le nord du Mali?
Alors, d'abord, entre le MNLA et en Sardine. Donc la confusion, la première confusion au niveau international quand on est en Suisse, on parle de la rébellion Touareg et des islamistes. Donc là, il faut, quand on est en Suisse, il faut être très très clair. La rébellion Touareg, ce n'est pas la rébellion Touareg et les islamistes, mais c'est la rébellion Touareg qui a deux tendances. La tendance séparatiste, indépendantiste, ça c'est le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui vient d'être défait, par l'autre tendance, la tendance salafiste en Sardine, qui est aussi Touareg, mais qui est islamiste, salafiste d'obédience wahhabite, donc intégriste. Donc ça c'est très clair. Et en Sardine est maintenant affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, et à la dissidence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est le Moujaou, qui contrôle pratiquement maintenant Gao. Donc en Sardine, contrôle encore Tombouctou et Kidal. Oui, la confusion, elle est très très grande. C'est-à-dire quand le 31 mars, lorsque ces groupes-là ont pris Gao, la population même ne savait pas qui est qui. Donc quand j'ai appelé quelqu'un à Gao, pendant toute une semaine, elle me disait, une informante, elle me disait toujours le MPLA. Donc le MPLA angolais, quoi, le mouvement. Donc le MNLA ne se connaissait même pas le nom du MNLA.
Justement.
Donc, elle disait le MPLA. Ouais. Donc ça c'est le... Donc aujourd'hui, les gens de Gao connaissent la différence entre le MNLA, le Moujaou, Sardine, ils ont appris. Bon, le reste de la population malienne, c'est peut-être un peu moins, mais quand même, tout le monde a une dent contre le MNLA qui a lancé la rébellion et qui maintenant a perdu la guerre parce qu'il semble être vraiment un trouble fait très très nocif qui a fait une guerre de procuration au profit d'Al-Qaïda. Qui a fait et aujourd'hui a perdu les cartes. On ne voit pas vraiment comment le MNLA peut se regrouper comme il jure de le faire et puis de reconquérir. C'est très très difficile parce qu'ils sont là contre une nébuleuse qui est très très vaste avec ACMI, avec le Moujaou, avec Ansardine et chaque groupe avec une très grande capacité de créer du désordre. Donc ceux qui se spécialisent dans la destruction du patrimoine culturel, comme les mausolées, comme les manuscrits, comme les statues, toute la représentation culturelle autre que leur propre dogme. Et puis il y a les autres qui sévissent sur la population, qui fouettent les gens, qui leur privent de télévision, qui leur privent de tout. Donc pourquoi les gens sont contents de voir les MNLA partir?
Justement, oui, pourquoi?
Les MNLA, qui avaient un projet d'État, qui voulaient créer un État indépendant, un État dont la capitale provisoire était en fait Gao, que le MNLA vient d'abandonner le 27 juin dernier. Le MNLA avait une très très mauvaise réputation. Donc chaque groupe rebelle a une mauvaise réputation. La mauvaise réputation du MNLA est d'être vraiment une bande de pilleurs. Donc c'est la destruction systématique de la base économique des emplois qui ont été pris. Donc ça c'est la grande différence. Et puis en Sardine, les Moujaou ont une mauvaise réputation d'être extrêmement dur avec les gens, de frapper les gens, de les tuer. C'est des fanatiques, c'est des intégristes. Ils sont très durs, mais qui ne touchent pas à la propriété des gens. Donc, bon, comme on dit en Suisse alémanique, être entre la peste et le choléra.
Justement, donc, il faut choisir.
Les gens de Gao se sont séparés maintenant du MNLA.
Bien sûr.
Et le MNLA, on parle des combats qui ont éclaté entre le MNLA et le Moujaou le mardi, qui ont finalement conduit à la déroute du MNLA le mercredi. Ça, ça a commencé avec le problème typique du MNLA. Tous ces multitudes de gens, un petit groupe qui a commencé, qui a ratissé l'âge, qui a des bergers, des gens qui ne sont pas vraiment formés, qui ne sont pas disciplinés, qui n'ont pas de moyens et qui vivent pratiquement en faisant du racketing, en faisant en pillant. Donc un directeur d'école qui a été tué pour sa moto. Ça a été un après la funéraille, ça s'est passé le lundi soir.
Justement, merci.
Et puis le mardi, les jeunes de Gao ont pris l'habitude depuis avril de sortir lorsqu'il y a un acte qu'ils n'acceptent pas. Ils sortent contre leur vie, au risque de leur vie.
Merci beaucoup.
Des manifestations.
Merci beaucoup.
Ils sont partis manifester finalement.
Merci.
Elle a tiré sur eux. Et le Moujao a fait le bon samaritain. Et est venu supporter les jeunes.
Nous allons y revenir. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Moro Modio Yusuba, d'avoir commenté et analysé la situation très, très critique actuelle au Mali. Et malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons quand même vous inviter encore une prochaine fois. Et puisque vous êtes même ici en Suisse à Bâle, donc on se retrouvera certainement au studio de Radio Kanaka pour en parler encore plus. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Bâle. Bonsoir, Monsieur Mahamadou Yusuba.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtres sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, nous allons parler maintenant de la situation politique au Togo, mais bien avant de recevoir notre invité sur la situation politique au Togo, notre correspondant Augustin Amega est également en ligne. Nous le prenons tout de suite. Augustin Amega, bonsoir.
Bonsoir, chers auditeurs de Canal K.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Augustin Amega, le collectif Sauvons le Togo est toujours dans sa logique de mobilisation. Il maintient son grand meeting de demain dimanche pour la présentation de la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Le CST a donc refusé le dialogue du jeudi dernier sur l'invitation du gouvernement togolais. Alors, vous qui êtes à Lomé, quelle analyse fait l'opinion nationale sur ce refus de ce collectif qui pose des préalables avant tout dialogue avec le gouvernement togolais?
Disons que, en général, dans l'opinion, l'unanimité est faite sur l'opportunité des préalables qui sont posés, à savoir l'inhumation des trois victimes de la répression politique policière, on en reviendra d'ailleurs là-dessus, le retrait des deux têtes qui sont votées dans le cadre de préparatif des élections, la restitution au collectif du matériel de sonorisation saisi par la gendarmerie et la libération des 53 personnes qui sont actuellement détenues à la prison civile de Lomé et qui sont manifestants du collectif. Sur tous ces préalables, l'unanimité est faite. Seulement, il y a une position marginale au sein de l'opinion qui est plutôt en faveur d'une démarche plus conciliante, à savoir que le collectif aurait pu faire la démarche d'aller vers le gouvernement et lui exprimer de vive voix les préalables plutôt que de les envoyer par courrier. Donc c'est seulement cette petite nuance. Sinon, il y a une unanimité au sein de l'opinion sur l'opportunité des préalables. Maintenant, il y a un fait nouveau qui est intervenu, c'est que le collectif a déploré dans son rapport trois personnes victimes de la répression policière. Le gouvernement a réagi en disant que deux de ces personnes n'étaient pas décédées suite à la répression policière et que des certificats médicaux décernés par les médecins traitants justifiaient que ces personnes ne sont pas décédées à l'occasion de ces répressions. Et il y a eu par la suite des parents de ces victimes-là, à savoir l'époux de la dame de 38 ans décédée à Lomé et une des filles du septuagénaire décédée à Sokoré, qui ont témoigné, apporté que c'est bien sûr à l'occasion de ces répressions-là que leurs parents ont été soit blessés, soit tombés dans les pommes et ont été transportés à l'hôpital, ont reçu des soins avant de décéder. Donc voilà le rebondissement qu'il y a dans cette affaire.
Merci Augustin Amégan. On nous annonçait il y a quelques semaines la libération conditionnelle du grand homme d'affaires Bertin Agba, arrêté dans une affaire d'escroquerie internationale. La plus haute juridiction avait ordonné la libération de Agba Bertin contre le paiement d'une caution de 150 millions de nos francs CFA. Mais le PDG de OPS n'a pas toujours recouvré sa liberté. Augustin Amégan, pourquoi la justice togolaise peine à se prononcer sur la libération conditionnelle de Bertin Agba?
Disons que beaucoup de personnes se posent la question, certains se demandent même si Bertin Agba n'est pas en réalité un prisonnier personnel de Fogna Findé. Puisque déjà le 23 janvier, la chambre d'appréciation de la cour d'appel avait dans un arrêt demandé la libération provisoire de Bertin Agba sous paiement d'une caution de 150 millions. Et il y a eu un pouvoir en cassation formé par le parquet général contre cet arrêt-là. La Cour suprême, a dans son arrêt rendu le 20 juin dernier, estimait que, se fondant d'ailleurs sur l'article 279 du Code de procédure pénale du Togo, estimait qu'en matière de détention préventive, le parquet général n'est pas fondé à pourvoir en cassation contre une décision en matière de détention préventive. Et puis les avocats de Bertin Agba ont alors constitué les 150 millions sur un compte au niveau de l'ordre des avocats, mais depuis, on ne sait pas pour quelle raison, malgré les multiples démarches vers le garde des sceaux, ministre de la Justice, vers le parquet général, M. Bertin Agba est toujours en détention à la prison de Thiévier. Et il paraît qu'il y aurait même des tractations pour que le ministre Pascal Bodouna, qui a également cité dans cette affaire, soit également écouté. Et là aussi, la Cour suprême a tranché en disant que contrairement à l'arrêt de la Cour d'appel de Lomé, eh bien c'est seulement le président de la Cour d'appel qui est habilité à écouter un ministre en fonction.
Augustin Amiga, merci.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, AfriqueInternews.com sont nos sites d'information panafricaine, partenaires de Fenêtre sur Afrique. Fenêtre sur Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Nous restons toujours au Togo, où les deux dernières semaines n'ont pas été glorieuses et du tout du repos pour la population togolaise. Et bien évidemment, après les manifestations du 12, 13 et 14 juin dernier, réprimées par les forces de sécurité, ainsi que la grande mobilisation à l'intérieur du pays, notamment à Tiviata, Kwame et Sokolé, bien sûr à l'appel du collectif Sauvons le Togo, le gouvernement opte de nouveau pour l'apaisement et a adressé au CST le 26 juin dernier, un courrier l'invitant à un dialogue. De sources bien informées, le collectif Sauvons le Togo pose de nouveau certaines conditions avant d'aller à la table de négociation avec le gouvernement. Et pour le collectif Sauvons le Togo, la libération des manifestants et le respect du deuil des familles éplorées sont des préalables à tout dialogue. Notons également que le collectif Sauvons le Togo maintient toujours son grand meeting de mobilisation demain dimanche, donc prévu à Lomé, et pour la présentation de sa plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Et pour plus de précisions, nous accueillons tout de suite Maître Raphaël Adjaré, qui est un responsable du collectif Sauvons le Togo. Nous le prenons tout de suite en direct depuis Lomé. Maître Raphaël Kwandi Adjaré, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct depuis Lomé. Vous êtes président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Alors, après les manifestations du 12, 13 et 14 juin dernier, réprimées par les forces de sécurité, ainsi que la grande mobilisation à l'intérieur du pays, notamment Chevia Takpame Sokore, bien sûr à l'appel du collectif Sauvons le Togo, et le gouvernement opte de nouveau pour l'apaisement et a adressé au CST le 26 juin dernier un courrier l'invitant à un dialogue. Et nous avions appris Maître Raphaël que le collectif Sauvons le Togo pose de nouveau certaines conditions avant d'aller à la table de négociation avec le gouvernement. Est-ce que ce ne sont pas des alibis que ce collectif pose pour refuser de négocier avec le gouvernement? On sait quand même qu'il est vrai quand même que le Togo a connu plusieurs négociations qui n'ont jamais abouti. Maître Raphaël Kwandiadjaré.
Oui, merci beaucoup. C'est avec plaisir que moi aussi je vous reçois. Mais je voudrais tout de suite vous dire que ce ne sont pas des alibis. C'est des préliminaires que nous considérons comme de vrais préliminaires. Parce que vous savez, au cours de cette manifestation, il y a eu 3 morts. Et nous pensons que le collectif Sauvons le Togo ne peut pas avoir des morts sur le dos. Et moralement, on ne sera pas tranquille à aller à une négociation, à un dialogue. Et donc, ça pose un problème déjà. Ensuite, au cours de la manifestation, il y a eu des blessés. Il y a eu des personnes qui ont été interpellées. 53 personnes à la prison civile de Lomé et une personne à la direction centrale de la police judiciaire. Nous ne pouvons pas, au cours d'une seule manifestation que nous avons organisée, que les gens ont été arbitrairement interpellés parce qu'ils étaient dans leur maison, et donc que ces gens soient en détention à la prison civile de Lomé, dans des difficultés vraiment exécrables, et que nous allions s'asseoir à la table de dialogue. Nous pensons que ça pose un problème de morale pour nous. Au cours de cette manifestation, ces manifestations qui ont été réprimées aussi bien à Lomé, à Takpame, à Tchévié, à Sokodé, à Kara, il y a eu des matériels. Le matériel du collectif a été saisi, notamment 2 voitures, et le matériel de la sonorisation, ces matériels ont été saisis. Et ces matériels, nous les avons loués. Alors les propriétaires sont en train de nous déranger, ils nous demandent de leur restituer le matériel. Alors il s'agit d'une confiscation arbitraire, et nous ne pensons pas qu'il faut aller négocier au moment où tout le matériel a été saisi. Nous pensons donc que ce ne sont pas des alibis. Mais par principe, nous pensons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution de 92 en son article, et que cette liberté de manifestation est réglementée par la loi du 16 mai 2011. Nous avons rempli toutes les conditions, nous avons rempli toutes les formalités, et nous ne pouvons pas que, exerçant un droit constitutionnellement protégé, qu'on vienne nous réprimer de telle manière que cela fait passer. Nous pensons que pour aller à la négociation, au dialogue, il faut qu'on libère ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, il faut qu'on nous restitue le matériel, et il faut aussi qu'on nous garantisse la liberté de manifestation qui est un droit constitutionnel. À partir de ce moment, lorsque nous aurons fini d'enterrer, de pleurer nos morts, de faire le deuil décent à nos morts, nous pensons que, satisfait ces conditions, nous irons à la table de négociation. Je le collectif n'est pas fermé au dialogue. Le dialogue est l'un des moyens que le collectif a mis dans son texte fondateur pour atteindre ses objectifs. Et donc, ce ne sont pas des alibis.
Eh bien, et parlons justement des morts liées aux manifestations du 12 et 13-14 dernier. Et dans un communiqué, le gouvernement apporte des explications. Et pour le premier cas, le gouvernement affirme qu'il y a un manifestant qui est décédé suite d'une crise d'hypertension suivant le rapport médical. Et le deuxième cas, la victime est emportée par le paludisme selon toujours un certificat médical. Alors, contrairement aux allégations du collectif qui prétend et qui présente ces cas comme victime des manifestations du 12 juin, et quelle est votre réaction? Avez-vous rendu visite aux familles de ces victimes?
Mais oui, si nous n'avons pas rendu visite aux familles des victimes, nous n'allons pas avoir la crédibilité des faits. Eh bien, que voulez-vous que le gouvernement dise? Quelle crédibilité voulez-vous accorder au communiqué du gouvernement? Est-ce que nous n'avons pas entendu le même gouvernement, les ministres de la Sécurité et le ministre des Affaires étrangères dire que les gaz lacrymogènes ont été lancés dans l'air et que c'est le vent qui a transporté ces grenades lacrymogènes dans l'enceinte de l'église? Mais que vous le... cette déclaration mensongère, mais quelle crédibilité voulez-vous porter alors à la déclaration du gouvernement? Nous pensons que la dame qui est décédée, c'est suite à des grenades lacrymogènes qui ont été lancées à son domicile et qui ont explosé. Mais cette dame de toute la manière, a été transportée de manière fracassante à l'hôpital, et c'est des suites de cela qu'elle est décédée. Eh bien, même si on dit qu'elle est hypertendue, mais je pense que qu'est-ce que les forces de l'ordre cherchent jusqu'au domicile de cette dame pour lancer la grenade lacrymogène? Et c'est cela que nous reprochons aux forces de sécurité. Il ne faut pas poursuivre les gens jusqu'à leur dernier retranchement. Si on veut disperser une manifestation alors que cette manifestation est autorisée, si on veut on lance la grenade lacrymogène sur les lieux de manifestation, qu'est-ce qu'on cherche en allant dans les domiciles des gens? Le monsieur qui est décédé à Sokodé, c'est un monsieur de 70 ans. Mais vous avez écouté le témoignage de sa fille. Sa fille a été concernée, ahurie, abasourdie pour le fait que le gouvernement...
Maître Raphaël, je ne vous coupe pas. Il paraît même que la victime, les parents des victimes ont témoigné sur notre radio et partenaires, les gens d'FM, c'est ça?
Oui, exactement. Et les parents des victimes sont témoignés. Le mari de la femme a témoigné. La fille du monsieur qui est décédé à Sokodé, sa fille a témoigné pour dire qu'elle est vraiment ahurie. Elle est très déçue, concernée par la déclaration du gouvernement. Mais que pensez-vous, d'où alors le gouvernement a eu les informations pour venir dire que non, c'est suite à une crise d'hypertension et à un palu aigu que les gens sont décédés. Mais de toutes les manières, on ne vous parle pas d'une jeune fille de 19 ans qui est décédée bien sûr d'une brûlure qui est consécutive à une explosion d'un grenade lacrymogène où la fille était en train de préparer sur le gaz lampant et c'est une explosion qui a conduit cette fille-là qui s'est finalement brûlée et elle en est décédée. Le gouvernement ne vous parle pas de ça, mais de toutes les manières, c'est une relation de cause à effet. Et le décès de cette personne-là, on ne peut pas le nier aujourd'hui, est lié à la répression des manifestants.
Et Raphaël Kwande-Adjaré, une question qui nous tient à cœur à la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique. Écoutez, la composition du collectif Sauvons le Togo, bien qu'il regroupe partis politiques et sociétés civiles, pose problème selon certaines indiscrétions. On évoque également le manque de volonté des leaders de l'opposition à constituer une véritable force pouvant faire fléchir le régime du président Faure Gnassingbé. Alors dites-nous, sans langue de bois, Maître Raphaël Adjaré, si ce collectif Sauvons le Togo est prêt à aller au bout de ses revendications et surtout dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise.
Effectivement, dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise, c'est l'objectif même du collectif. Vous savez, nous sommes de la société civile, mais je pense que c'est au Togo qu'on va toujours dire que la société civile fait de la politique ou bien une composition hétérogène. Mais quand ça s'est passé au Sénégal avec le M23, qui a parlé? Quand ça s'est passé en Guinée où les gens sont allés dire au président que vous n'allez pas faire un troisième mandat, mais qui a dit quoi? Quand ça s'est passé au Bénin, où un collectif d'associations de partis politiques et d'associations de la société civile ont dit « touche pas à ma constitution ». Mais qui a parlé? C'est au Togo qu'on peut trouver toujours à dire. Mais de toutes les manières, le collectif, c'est un mouvement citoyen. Notre plateforme, c'est une plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Et les trois piliers fondamentaux du collectif, c'est la lutte contre la violation systématique des droits de l'homme et l'instrumentalisation de la justice, la lutte pour les élections transparentes, l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, la lutte pour la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, on sait que c'est une minorité, c'est le chef de l'État qui l'a dit, une minorité des Togolais vit dans une opulence insolente et que c'est une majorité qui croupit dans la misère. Et donc cela porte atteinte au développement. Et donc je pense que dans tous ces objectifs, vous allez voir qu'il n'y a pas la conquête du pouvoir. Même si, en fin de compte, il y a cette question du changement radical de la gouvernance entière, actuelle, c'est dans l'intérêt du peuple togolais, c'est dans l'intérêt des citoyens togolais. Et c'est vu ces objectifs qui sont fédérateurs, qui ont reçu l'adhésion des populations togolaises, c'est vu cela que le collectif a fait une grande mobilisation les 12-13, et je pense que c'est ça qui a inquiété le gouvernement, le pouvoir, qui n'a choisi d'autres moyens de réprimer les manifestations. Et le collectif est prêt à aller jusqu'au bout.
Justement.
En sortant l'interpellation de ses responsables, n'oubliez pas que Maître Afan Bidi, qui est le trésorier et adjoint du collectif, Maître Ajavon-Zeus, qui est le coordinateur, Maître Pandé Adjaré, qui est le rapporteur général, ont été interpellés.
Ça, c'est vous-même,
À la Tambaberie, et je pense que nous n'allons pas baisser les bras. Nous pensons que nous luttons pour une cause noble,
bien
une cause
sûr.
Juste, et nous en nous irons jusqu'au bout.
Alors, maître, une bonne partie de la diaspora togolaise s'associe au mouvement du collectif Sauvons le Togo. Il y a des associations comme Synergie Togo, basée en France, le CMDT, Conseil mondial de la diaspora, et qui se réunira le samedi 7 prochain à Londres, en Angleterre, et penchera bien sûr sur les problèmes de la crise au Togo. Il y a également CEMAP Togo, comité de motivation et d'action pour la liberté au Togo, basé en Caroline du Nord, aux États-Unis. Alors, dites-nous concrètement ce que le collectif attend de cette diaspora que le gouvernement togolais refuse toujours de compter, maître Kwandia Diarré.
Oui, mais je pense que c'est la... les citoyens togolais qui ne sont pas au Togo et qui sont à l'extérieur du pays, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Et nous saluons cette mobilisation de Synergie, de CMDT et de d'autres formats, de d'autres mouvements, d'autres associations qui voudraient bien relayer les actions. Et ce que nous attendons de la diaspora togolaise, c'est que la diaspora togolaise relaie les actions du collectif, c'est-à-dire les objectifs du collectif, que tout le monde sache aujourd'hui que le peuple togolais est déterminé quand même à se libérer d'un régime qui a confisqué sa liberté pendant longtemps. Et donc tout le peuple togolais est déterminé à reconquérir sa liberté politique et économique. Et donc, ce qu'on peut attendre, c'est de relayer nos actions à l'extérieur, c'est de faire savoir que la lutte, que nous, les revendications du collectif Sauvons le Togo sont des revendications, sont toutes légitimes, mais aussi de soutenir le collectif, parce que n'oubliez pas que les Togolais sont réduits à une portion congrue d'une pauvreté extrême, l'argent étant le nerf de la guerre, eh bien nous avons besoin des moyens financiers pour sensibiliser tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et donc il faut faire des déplacements, il faut des moyens financiers pour soutenir ces actions pour que le but, les objectifs du collectif Sauvons le Togo puissent être atteints. Et donc relayer nos actions d'une
bien
part,
sûr,
mais aussi contribuer par un secours financier.
De toute façon, la diaspora est nombreuse à l'écoute de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, et j'espère que le message est passé. Une dernière question rapidement, maître Kwandia Diarré. Alors, Gilbert Bawara, conseiller de la présidence du Togo, dans un débat avec Claude Amegavi du Parti des Travailleurs sur notre radio partenaire, le Champ d'FM à Lomé, avait affirmé que ce collectif, votre collectif, Sauvons le Togo, n'a aucune entité juridique pour organiser des manifestations de ce genre, en soumettant également au gouvernement des revendications radicales. Alors, que répondez-vous à cet ancien ministre à cet ancien ministre?
Oui, c'est vrai, mais c'est regrettable. Je pense que la réponse lui avait été donnée le même jour par Claude Amegavi, celui avec qui le débat avait été mené et qui est membre du collectif, M. Claude Amegavi, secrétaire général du Parti des Travailleurs. Mais c'est regrettable que sa parole puisse sortir de la bouche d'un conseil spécial du président de la République. Je pense que le président de la République doit l'appeler à l'ordre. C'est regrettable que sa parole puisse sortir des bouches de quelqu'un qui est un ancien fonctionnaire, comme il le dit, des Nations Unies au PNUD. C'est très regrettable. S'il est juriste, je pense quand même que lorsque des entités qui ont des existences juridiques se mettent ensemble, ces entités n'ont pas besoin, outre mesure, d'une reconnaissance juridique avant de pouvoir fonctionner. Je pense quand même qu'il s'est mépris, soit il connaît, il ne veut pas le dire, soit il ne le connaît pas, je dis que c'est regrettable, alors il n'a pas sa place à être un conseil spécial du président de la République. Mais de toutes les manières, les entités du collectif sont des entités juridiques qui ont une existence légale, qui ont une personnalité morale acquise, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, le collectif n'a pas d'existence légale. Mais de toutes les manières, aujourd'hui, le gouvernement sait qu'il doit travailler avec le collectif, raison pour laquelle le gouvernement a invité le collectif à venir au dialogue. Et donc, si, tel que clamait le conseiller spécial du président de la République, le collectif n'avait pas d'existence légale, je pense quand même qu'on pouvait lui prêter oreille. Et donc, le collectif est composé d'associations, composées, dirigées d'hommes responsables, qui connaissent leurs droits, qui savent ce qu'ils font et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ils ne sont pas des badauds. C'est regrettable que de telles paroles puissent être tenues par un conseil spécial du président de la République. Nous ne sommes pas des badauds, nous sommes des gens responsables et nous pensons que nous nous engageons comme tels et nous sommes prêts à défendre cette noble et juste cause que le collectif s'est donnée.
Maître Raphaël Kwandia Diaré, en tout cas, merci d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis Lomé. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K que vous êtes le président de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme, vous êtes un responsable du collectif Sauvons le Togo. Encore une fois, merci et à bientôt, Maître Raphaël Kwandia Diaré.
C'est moi qui vous remercie et je salue également vos fidèles auditeurs. Et j'avoue que la lutte doit continuer. Nous vous félicitons pour tout ce travail que vous faites pour relayer les actions du collectif Sauvons le Togo.
Bonsoir et merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, nous sommes la voix des opprimés, la voix des sans-via. La diaspora togolaise s'organise aussi à leur niveau suite à l'appel lancé par le collectif Sauvons le Togo et qui demande un soutien surtout financier. Et j'ai tout de suite en ligne, en direct depuis et le Caroline du Nord aux USA, Moussa Issoufou, un Togolais de la diaspora. Nous le prenons tout de suite. Moussa Issoufou, bonsoir.
Bonsoir, Mons.
Merci d'être en direct avec nous depuis les USA et plus précisément aux Carolines du Nord. Alors, vous êtes un Togolais de la diaspora résident aux Carolines du Nord, aux États-Unis. Alors, comment s'organisent les Togolais qui sont aux États-Unis pour le soutien au collectif Sauvons le Togo, Moussa Issoufou?
Disons que l'organisation a commencé déjà parce que c'est ce que les Togolais de la diaspora, plus précisément en Amérique du Nord, attendaient depuis. Et nous sommes en train de nous concerter pour voir comment apporter notre soutien financier, notre soutien moral et si possible physique au CST sur place à Lomé. Donc nous avons lancé déjà des appels à d'autres organisations de la diaspora en Amérique afin qu'on se retrouve pour pouvoir étudier les voies et moyens pour rapidement venir en aide à nos frères et sœurs qui se battent déjà sur le terrain. Et donc nous comptons apporter un soutien financier fort aux efforts que fournissent les gens sur le terrain et soutien logistique, et nous comptons aussi relayer, n'est-ce pas, cette lutte-là dans la diaspora. Nous voulons faire en sorte que cette lutte soit aussi la nôtre, puisque nous allons faire écho auprès du gouvernement américain, auprès des organisations internationales sur place en Amérique ici, afin que tous puissent aussi être au courant de ce qui se passe chez nous, leur dire clairement les vraies aspirations du peuple togolais et faire en sorte qu'ils puissent comprendre le sens de la lutte qui se mène maintenant sur le territoire togolais par le CST.
Merci infiniment Moussa Issoufou depuis Caroline du Nord. Moussa Issoufou est le représentant de CEMAF, Comité de Motivation et d'Action pour la Liberté au Togo. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Moussa Issoufou, bien de choses à tous nos frères compatriotes depuis les États-Unis ou Caroline du Nord.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Tchatchiki Urodikpa est également en ligne, en direct depuis l'Allemagne. Et ils ont fait déjà une réunion aujourd'hui même en Allemagne. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Ramscheid, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Tchatchiki Urodikpa, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Sylvain Amos.
Merci d'être en direct avec nous depuis l'Allemagne. Alors, au Tchatchiki Urodikpa, vous êtes un Togolais résident en Allemagne. Vous avez organisé une rencontre aujourd'hui même à Remscheid en Allemagne afin de soutenir les actions du collectif Sauvons le Togo. Et Urodikpa, est-ce que les paroles seront suivies des actions concrètes pour le soutien au collectif Sauvons le Togo?
Oui, je vous remercie encore une fois de m'avoir tendu le micro de Canal K FM. Vous venez de poser la question de savoir si les acteurs vont suivre nos idées, notre engagement. Je vous dis oui, oui à 100%, parce que ce n'est pas pour rien que nous avons remué la terre et le ciel pour avoir mettre à sang de Dieu dans nos murs ici en Allemagne. Quoiqu'il ne venait pas ici en Allemagne, il arrivait seulement en France, mais à partir du Togo où il était, nous avons négocié à ce qu'il soit ici, et ça a été le cas aujourd'hui. Il vient de rencontrer la diaspora togolaise en Allemagne, et non, au-delà de la diaspora togolaise en Allemagne, il y a aujourd'hui une représentation du Conseil mondial de la diaspora qui a aussi fait signe de présence au niveau de la conférence de presse que Maître vient d'animer à l'endroit de la diaspora togolaise. Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que la cause togolaise soit non seulement entendue au niveau des autorités compétentes de l'Allemagne, puisque hier même, nous avons su avoir un rendez-vous auprès du ministère allemand des Affaires étrangères, allemand des Affaires étrangères, pour permettre au maître Hassan Begui de présenter la situation réelle et actuelle du Togo face à ses autorités. Et au-delà du travail de lobby, il y a aussi un travail qui reste essentiel. C'est celui de lever des fonds pour pouvoir soutenir financièrement le mouvement sur le Togo. Et dans ce sens-là, nous sommes en train de prendre des mesures concrètes pour pouvoir faire en sorte que demain, notre main puisse arriver au Togo pour pouvoir aider le peuple à avoir de l'eau, à avoir de quoi se soigner en cas de besoin, et faire en sorte que la lutte aboutisse à la victoire pour la démocratisation de notre pays, le Togo.
Tchatchipi Urodikpa, merci d'avoir été en direct avec nous depuis l'Allemagne. De Adolphe Tidja le Togolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Nous vous retrouvons samedi prochain. Romain Koudjodi, Fabi Kwasi, Augustin Amega, Esteban Gagnon, Josué Maoli et Sylvain Amour se constituaient l'équipe de Fenêtre sur l'Afrique. Excellente soirée à toutes et à tous.
Tia la mudo. Jokotia la wè. Jokotia la wè.